va démarrer donc cette dernière donc, rencontre du festival donc, Roman, spécial littérature, science-fiction. Pour cette dernière rencontre, on a voulu donc, réunir en fait, les éditeurs qui étaient présents donc, invités à ce festival pour permettre de comprendre un peu ce qu'est aujourd'hui le travail d'un éditeur dans le domaine de la littérature de science et de fiction. Et on a pour cette raison donc, invité ici trois maisons d'édition, la quatrième malheureusement elle va plus venir en littérature jeunesse, en album jeunesse. Donc trois maisons d'édition sont présentes ici. Alors ils vont dans un premier temps donc, chacun se présenter pour un peu voir leur travail, leur catalogue en fonction de la grandeur de leur maison d'édition. Et ensuite, des discussions se mettront en place avec Jean Roche donc, qui est ici et notre ami qui est ici pour essayer de faire autre chose qu'une discussion d'un côté et de l'autre, mais après, une petite rencontre et un débat autour du thème. Voilà. Je vais laisser la parole à Sophie qui va un peu présenter sa maison et un peu le travail qu'elle fait maintenant depuis assez longtemps. Voilà, c'est à toi la parole, Sophie.
Merci. Assez longtemps, ça fait exactement 12 ans que nous avons entrepris de construire une petite maison d'édition, donc les éditions Le Pommier, dont le catalogue est là et à votre disposition, j'en ai pris cette annonce si ça vous intéresse. C'est une petite maison d'édition qui a pour vocation de faire de la vulgarisation scientifique et philosophique pour tous les publics. Et nous avons commencé évidemment par des publics adultes, jamais faire de tout pour enfants. Donc on a commencé notamment par une collection à laquelle je suis très attachée, qui est tout à fait l'emblème de la maison, qui s'appelle Les Petites Pommes du Savoir. C'est une collection dans laquelle nous avons des titres, il y en a déjà 140, ce qui n'est pas rien, qui traite de tous les sujets dont la science se sert un petit peu. Alors ça va depuis des sujets de curiosité générale, comme pourquoi la mer est-elle bleue, ou pourquoi le soleil jusqu'à des questions un peu plus, disons, de société, comme la science du monastère, qui est quand même une question qui aujourd'hui interroge beaucoup de gens, ou bien cloner éthique morale, des choses qui sont plus à la limite, ou même sur l'euthanasie, qui sont plus à la limite entre la société et la science. Sinon, pour ça, nous avons créé évidemment une collection poche. Là, j'en profite pour vous montrer un livre pour lequel j'ai un amour particulier qui s'appelle Les Métamorphoses du calcul de Gilles Dobec, qui est un livre de maths qui m'a permis de comprendre des mathématiques du 21e siècle, alors que moi, en général, je m'arrête au 17e et encore. Ça me permet de vous dire qu'en fait, en premier, il n'y a pas un seul scientifique. Nous sommes tous des représentants du monde de la lecture qui sommes curieux de science et qui avons envie de comprendre, mais nous ne sommes pas scientifiques. Donc nous représentons le public et nous faisons appel uniquement à des scientifiques qui sont en train d'exercer leur métier. On essaye essentiellement de prendre des gens qui sont en train d'exercer ce métier et qui sont à nos yeux les mieux à même de réfléchir sur les enjeux de la science et de déceler les éventuelles imprécisions que certaines images qu'on utilise pour expliquer des choses pourraient induire. Donc voilà. D'ailleurs, au passage, ce livre, ce qui est amusant, c'est qu'il a eu le grand prix de philosophie de l'Académie française pour un livre de maths. Ça montre un peu la profondeur du livre. Ensuite de ça, toujours dans l'édition pour adultes, on a des essais. Alors là, je vous montre un essai pour lequel j'ai eu un coup de foudre qui s'appelle L'écologie du bonheur de Éric Lambin, qui a eu le grand prix du livre de l'environnement et qui m'est arrivé par la poste. Ça, c'est aussi une chose agréable. Sinon, on a une petite collection avec la Cité des sciences qui s'appelle Le Collège, dans lequel on a des petits livres qui ne sont pas des livres de poche, mais presque, et qui font écrire des grands auteurs. Là, on a Pascal Pic, Michel Serres, Jean-Didier Vincent, c'est et donc sinon on a des ouvrages assez bizarres comme 50 expériences pour épater vos amis à table, qui est un essai que nous faisons mais qui a l'air de bien marcher pour proposer un jeu avec la science mais avec des explications derrière toujours, on est sérieux. Et sinon, nous avons des beaux livres et nous avons le grand bonheur d'accueillir Michel Serres comme auteur premier qui publie l'essentiel de son œuvre chez nous depuis le début. Et ça, c'est vraiment une grande joie. Et là, je vous invite à aller regarder ce dernier livre qui vient de sortir et qui est vraiment une pure merveille. Alors, dernière collection adulte, je tenais beaucoup à utiliser toutes les formes possibles pour pouvoir diffuser la science et la philosophie, y compris donc la fiction, et c'est la première raison pour laquelle nous sommes là aujourd'hui. Et là, je vous montre deux titres de la collection que nous avons appelée Romans et plus, collection dans laquelle des auteurs rares, je dois dire, qui sont tous des scientifiques ou philosophes, qui sont en même temps des écrivains, ont choisi de raconter chacun à sa façon un peu de science ou un peu de philosophie au travers d'une fiction. Alors je vous donne juste deux exemples comme ça. Le livre de Frédéric Serrore qui s'appelle Mystère Pascal et la mort du Père Noël, en fait raconte une histoire entre guillemets presque vraie, celle de la mort du Père Noël, qui était un vrai père qui a vraiment été assassiné. Mais il a imaginé que c'était Pascal lui-même qui menait l'enquête, et grâce à l'application de sa célèbre méthode et de ses pensées, était capable d'arriver à trouver qui avait tué le Père Noël. Et par ailleurs, un autre livre qui s'appelle Albert et Marilyn de Jean-Jacques Grève, qui est en bas et que vous pourrez rencontrer si vous le souhaitez. Là, c'est une rencontre, disons, improbable entre Albert Einstein et Marilyn Monroe qui dialoguent et qui, chacun, explique à l'autre ce qu'il sait du milieu dans lequel il vit et de ce qu'il a fait. Voilà. Je vais vite. Et donc, dernier point, en 2004, au travers de toutes les rencontres que nous faisons, parce que nous faisons beaucoup de rencontres et notamment nous répondons presque toujours oui aux demandes des bibliothécaires, nous avons vu systématiquement les bibliothécaires venir vers nous et dire « Mais pourquoi vous ne faites pas de livres pour enfants ?» Et donc on s'est dit « Bah, on va essayer. » Voilà. Et les premiers livres pour enfants qu'on a fait, c'est cette petite collection qui s'appelle « Les mini-pommes », dont voici un des derniers, et que nous faisons avec des classes en CM1. On emmène les scientifiques en CM1, ça se fait en interaction avec eux, je vous en dirai plus tout à l'heure éventuellement, et c'est une collection maintenant qui compte plus de 40 volumes, et qui est illustrée bien sûr, qui s'adresse à des 9-12 ans. On a décidé de faire aussi des romans, par exemple, voici les aventures de Thomas l'Aristologue et ma voisine de Nerfou, il y a toute une série derrière. Et puis, on a fait des livres illustrés. Je vous montre celui-là pour lequel j'ai eu un petit coup de cœur, qui s'appelle les îles du temps, mais en fait, c'est les plantes au temps des dinosaures. Et il y a une vraie histoire, et à la fin, il y a des plantes qui montrent vraiment quelles étaient les plantes qu'il y avait au moment des dinosaures, et celles qui existent encore et celles qui sont disparues. Et dernière collection, la collection Philosophée que nous avons lancée avec Michel Puech et qui s'adresse à des 12-16 ans et qui propose de réfléchir sur des thématiques qui sont vraiment les thématiques de la vie quotidienne, vous voyez, aimer, jeter, mais de le faire sans le concours aux philosophes. C'est-à-dire que c'est vraiment une réflexion. Voilà. C'est bien, enfin, même.
Oui, c'est ce que je disais.
Voilà. Et nous avons plus de 500 titres au catalogue, ce qui oui, on dit.
Voilà, donc déjà une approche déjà de maison d'édition qui sont donc Le Pommier, maison d'édition qui a un beau catalogue, qui a une grande production de qualité, qui est un éditeur indépendant, c'est important aussi de le dire.
C'est plus tout à fait vrai. Nous l'avons aidé pendant 7 ans et ça fait 4 ans que quand même je suis associée à Belin, parce que je suis pas une femme d'argent et que j'aime bien pouvoir me consacrer à mon métier qui est l'édition. Voilà, parfois c'est un peu difficile d'être indépendant.
Très bien. Belin, tu viens une maison indépendante quand même dans l'édition aujourd'hui. Alors, André-François Arnaud, donc bonjour. Voilà, vous, on a vraiment désiré vous faire venir par rapport à votre catalogue pour deux raisons. On n'a pas de catalogue donc des éditions Le Mouton Électrique. Donc déjà un titre qui résonne dans beaucoup de personnes qui lisent la science-fiction. À Romain, on a voulu donc cette année faire venir cette maison qui est d'ailleurs, comme tu diras, une maison lyonnaise aujourd'hui, mais qui est une maison qui, pour nous, a un fond extraordinaire, qui nous expliquait, et qui est en train petit à petit de sortir on est en train de le voir de plus en plus avec des, parce qu'on commence à s'apercevoir de la richesse et de la puissance de ce catalogue. Voilà. Un peu, André, François, de nous redire un peu comment cette maison est démarrée et comment son catalogue est constitué.
Alors déjà, cette maison lyonnaise s'appelle Les Moutons Électriques, je suis le directeur littéraire. Alors c'est quoi Les Moutons Électriques? En fait, c'est une référence à Philippe K. Dick. Vous connaissez peut-être le film Blade Runner. Et Blade Runner, qui est donc un film de science-fiction américain, était adapté d'un roman d'un grand écrivain californien de science-fiction, Philippe K. Dick. Et ce roman, le titre d'origine, c'était Les androïdes de Mike de Boutons Électriques. Donc voilà, on a trouvé ce titre. On se mettait ainsi un peu sous le haut patronage d'un grand écrivain. Et puis le co-créateur de la maison d'édition, en plus, avait été un ami intime de Philippe K. Dick. Donc voilà. Et qu'est-ce que c'est les Moutons Électriques? Bien, à la base, notre passion, c'était la science-fiction, mais aussi tout ce qui est littérature et culture populaire actuelle, c'est-à-dire séries télé, bandes dessinées, voilà, tout ce qui est issu des grands mass-médias, toute la culture de masse. On a créé, en fait, on a grosso modo structuré notre catalogue sur trois collections et une revue. Alors, la revue, la revue, elle s'appelle Fiction. Voilà, donc, c'est deux fois par an qu'on publie ce gros bouquin. Fiction a été créée en 1953 et s'est arrêtée en 1989, 10, je ne sais plus. On avait toujours eu, je dis bon parce que je n'ai pas créé la maison tout seul, on avait voilà, l'ambition, l'envie de ressusciter cette très belle revue de science-fiction et de fantastique. Et c'est la revue, c'est une revue américaine et ça, c'est la version française de la revue américaine. Donc ça, on publie simplement deux fois par an. Et puis sinon, on avait envie évidemment de publier des romans et des recueils de nouvelles. C'est cette collection-là. Vous remarquerez que tous nos bouquins, ou presque, sont dans un format un peu particulier, quasiment carré, qu'on a choisi exprès pour qu'ils soient justement un peu différents. Et puis on veut que nos bouquins soient beaux, donc ils ont tous des rabats, ils sont généralement avec des illustrations, enfin, il y a un certain travail. On dit tout le temps qu'on est proche de l'apport du livre papier, donc nous on aime les livres en papier, donc on fait en sorte que nos livres en papier ils soient justifiés d'être en papier. C'est-à-dire là par exemple, je suis en train de travailler sur un bouquin qui paraît en janvier. Il y a quatre papiers différents dans le bouquin, par exemple. Dire que, alors que c'est un tout petit bouquin tout court de 160 pages, là on fait fort, je trouve. C'est compliqué pour 160 pages. Les romans et recueils sont dans cette collection-là, la bibliothèque voltaïque, où j'essaye de découvrir des nouveaux auteurs, mais aussi de constituer un vrai catalogue dont je puisse être fier avec des textes que j'estime, moi, importants, aussi bien des textes récents que des textes anciens, des textes français aussi bien que des traductions. Là, en l'occurrence, c'est Jean-Philippe Jablonski, donc ça, c'est un auteur que j'ai découvert, qui est arrivé à la Poste, comme Sophie disait, que finalement, soit pas grand-chose d'intéressant par la Poste. Et là, Miracle, on a reçu un texte formidable, et Miracle supplémentaire, c'est un auteur qui a été refusé par trois. Ce bouquin-là a été refusé précédemment par trois éditeurs. J'espère qu'ils s'en portent les doigts, parce que c'est une vente énorme. Ça a plu énormément, et son roman, et le roman de cet auteur, est la plus grosse vente qu'on ait fait. Donc on est évidemment très très fiers d'avoir découvert un vrai auteur, une vraie voix, équipée. Et puis on a créé donc une deuxième collection qui s'appelle la Bibliothèque Rouge. Toutes nos collections s'appellent Bibliothèque. La Bibliothèque Rouge, ça c'est la nouvelle version de la Bibliothèque Rouge. L'idée c'est de faire une biographie de grandes figures de la littérature populaire comme s'ils avaient existé. C'est-à-dire d'étudier les textes de l'intérieur sans rien inventer. Uniquement lire les textes à la loupe et reconstituer la vie de ces grands personnages, donc là en l'occurrence Sherlock Holmes par exemple, comme s'ils avaient existé dans leur contexte historique. Donc c'est un travail à la fois fait une biographie, un livre historique sur son époque, sur son contexte et sur ses contemporains. Et on a fait 22 bouquins dans cette série-là. Et on va bientôt étudier quelques villes aussi, Londres, Paris. Et puis la dernière en date de nos collections, et celle qui, à dire vrai, marche le mieux, s'appelle La Bibliothèque des Miroirs. C'est des bouquins, bon là, celui-là n'est pas très gros, il y en a des gros, il y en a des pas gros, c'est très variable sur les sujets. Le but, c'est de publier des essais assez jolis, donc fortement illustrés, sur des grandes thématiques de l'imaginaire populaire actuel. Donc là, en l'occurrence, ça c'est, j'ai pris, c'est le tout dernier qui vient juste de paraître sur les Monty Python, donc des films et des séries télé. En fait, on essaie d'étudier plutôt transversalement les thématiques. C'est-à-dire, lorsqu'on parle, je ne sais pas moi, des vampires, on parle à la fois des bandes dessinées, des films, des séries télé, au même niveau. On ne découpe pas la culture en petites tranches, un bouquin sur la littérature ou sur les BD. On traite de tout au même niveau. Et donc, il y a les tas de thématiques, donc les vampires, le steampunk, le space opéra. Qu'est-ce qu'on sort là? On sort un bouquin qui étudie comment fonctionnent les génériques. On en sort un autre sur les monstres de l'imaginaire. Voilà. Et on a une centaine, on existe depuis 7 ans. Et on a un peu plus de 200 titres au catalogue.
Très bien, voici cette seconde présentation d'un autre éditeur qui est un autre univers, évidemment, comme vous avez remarqué, puisque André François a aussi un univers de fond. Pour ça, je parlais d'un éditeur qu'on commence vraiment à bien découvrir, parce que les livres sont en train de sortir un peu de dessous et à montrer des qualités éditoriales de rendre des factures vraiment des livres intéressants. Alors, il y a une première personne ici que je vais vous présenter, qui est donc Mathias Echenet de l'édition La Volte. Alors, Mathias, en fait, sa maison d'édition était présente. Un auteur était présent ici il y a à peu près 6 ans. C'était Alain Lamazieux, donc il était ici, donc au salon cette année. On avait trouvé à l'époque que son travail était Alain Lamazieux et l'éditeur assez exceptionnel, puisque La Route du Contrevent avait l'originalité d'avoir un texte, un site internet à l'époque déjà, une exposition, de la musique, quelque chose d'assez ouvert et qui, à mon avis, représente bien le travail que fait Mathias dans sa maison d'édition, donc depuis maintenant aussi quelques années, je crois, au moins depuis 2004, fin 2004. Voilà. Mathias, donc un peu nous dire un peu cette histoire et comment tu prends plaisir dans cette maison d'édition.
2004, comme le bouton électrique, je crois qu'on a annoncé au même festival, c'est un hasard, c'est assez drôle, la création de la maison. Donc La Volte, c'est une toute petite maison, mais très ambitieuse, mais bon, toute petite, à savoir que nous sommes imposés de ne pas faire plus de 4, ça peut atteindre 5 livres par an. Voilà, et nous avons créé la maison d'édition qui s'appelle La Volte, parce que c'est un vrai projet en réalité, puisque ça a démarré pour publier ce fameux livre d'Alain Lamazieux qui s'appelle La Horde du Contrevent. Que c'était un livre très important et aucun éditeur vraiment était susceptible de le faire à ce moment-là. Donc on a fait tout ce qu'il fallait pour l'éditer. Et en effet, ça a été un succès qui se poursuit. On est très fiers. Et donc, la ligne éditoriale est celle de mon goût, des goûts de mes camarades. Ça se classe le plus souvent en science-fiction, en rayon science-fiction. On ne va pas débattre en tout cas de ce qu'est la science-fiction, je ne suis pas capable. En tout cas, voilà, ça se situe dans l'imaginaire, beaucoup, et c'est beaucoup sur la littérature, parce que moi ce qui m'apporte beaucoup, c'est l'écriture, le monde d'écriture de chaque auteur. Et en tant que lecteur de base, je trouvais de moins en moins ces livres-là pour mon goût. Donc on a donc publié La Horde du Contrevent dont on a parlé, qui effectivement a aussi de la musique, mais c'est pas un plus produit ni un bonus. Il se trouve qu'on avait envie, comme c'est un univers absolument gigantesque, un travail titanesque de notre des illustrations sur un site, par de la musique, une rencontre entre l'auteur et le musicien. Ça donnait lieu aussi à un livre d'un format aussi un peu carré. C'est rare. Un objet. Voilà, on a poursuivi donc pour Madame Damasio en écrivant un livre tous les 7 à 10 ans. Ça ne permet pas vraiment de faire exister la maison. On avait d'autres envies. On a publié le livre d'un autre auteur français qui s'appelle Stéphane Bollinger, qui en est à son 4e, le dernier qui va paraître. Il s'appelle Le Déchronologue. Et il y a eu une vie de science-fiction. Enfin, voilà, c'est une histoire de. C'est pas une simple histoire, mais c'est une histoire de pirate. Ça, c'est pour la version simple. Et en même temps, c'est raconté avec des sauts dans le temps, puisque les chapitres. On avance et on recule dans le temps, les chapitres sont en quelque sorte dans le désordre. C'est pour ça que ça s'appelle Le Déchronologue. Et il y a des sortes de paradoxes temporels qui apparaissent de plus en plus dans le livre. Voilà, des auteurs français, et récemment un auteur qui s'appelle Léo Henry. Voilà, d'ailleurs, ça pourrait se trouver dans un rayon polar, dans un rayon de littérature générale, de littérature de science-fiction, et quand même beaucoup de science-fiction. Je ne vais pas vous raconter l'histoire. Puis un auteur anglais que j'adore, qui se retrouve majoritairement en littérature, en rayon littérature, je ne vais pas distinguer. Je parle vraiment de rayon, je ne dis pas que la science-fiction est de la littérature, mais voilà, un auteur anglais qui s'appelle Jeff Noon, qui a un univers, une poésie très particulière, et que j'adore, voilà, tout simplement. Et puis là, récemment, un italien, donc il y a du français, il y a l'italien, comme voilà, je ne lis pas d'autres langues, il n'y aura pas raison d'avoir de lire dans d'autres langues. Voilà, un auteur qui s'appelle Valerio Evangelisti. J'ai découvert en fait en français puisqu'il a été publié chez d'autres éditeurs, mais la série n'étant pas terminée, le héros s'appelant Nicolas Hénorich, inquisiteur, la série n'étant pas terminée, je me suis dit c'est pas possible, il faut que ça existe, donc on republie ce qui était déjà sorti, qui n'est plus disponible, et puis la suite de la série. Voilà, là ça fera 10 livres, donc on va peut-être battre notre record de 10 par an, on fera peut-être 5 l'année prochaine. Voilà, c'est très simple, je pense qu'après on pourra discuter de choses et d'autres, de comment ça fonctionne. C'était pour la présentation, de la bonne.
Très bien.
Je suis situé, alors nous faisons ça dans mon garage, chez moi, la nuit et les week-ends. Nous n'avons pas de salariés, ça se passe chez moi, dans le 92 à côté de Paris, à Clamart.
Donc, juste avant de passer la parole évidemment à la salle, je profite donc pour vous présenter Girolamo Ramoni, qui est donc, comme certains le savent, que j'ai rencontré dans les deux jours, docteur en sciences en philosophie, professeur d'université en Clamart. Et il enseigne l'histoire et la philosophie, et il va essayer de aussi apporter sa contribution. Alors, la petite question, parce que c'est vrai que quand c'était les auteurs, c'est une question très, très individuelle par rapport aux thématiques, etc. Là, c'est une question un peu plus large. Je vais poser la question, quelles sont les petites questions que vous avez posées à ces, on va dire, ces jeunes, je dis même pour tous, ces jeunes maisons d'édition qui sont l'émergence de cette littérature et qui font un travail de titan dans les recherches et dans le quotidien, à chacun à sa façon. Certains donc, le font en plus de d'autres activités, d'autres sont une activité entière, une maison d'édition qui a une production de plus de 500 livres. Et au milieu, je dirais le mouton où il y a un peu central entre les deux, où il y a une production qui est en train de progresser, et il y a un autre qui s'ouvre aujourd'hui.
Il y a des questions qui sont d'abord générales, parce que quand je vais dans des salons du livre, je suis toujours étonné, j'étais favorablement étonné aussi ici, de voir l'attention du public par rapport au livre. Hein? Aujourd'hui qu'on a les publicités des tablettes, des machines, etc. Moi personnellement, je suis très attaché au papier. Parce que je pense que le papier donne une liberté que les tablettes éliminent. Et j'ai plaisir de vous dire que je vois que les gens achètent encore des livres, ce qui me fait vraiment plaisir. Et je voudrais poser deux questions. Un, comment vous faites connaître des livres que nous avons vraiment frappés? sans tomber dans notre discours un peu banal, etc. Et la deuxième question, combien de manuscrits vous mettez à la porte?
Bon, ben déjà, les manuscrits, moi j'en ai zéro à la poubelle parce que j'en reçois pas. Parce que je demande à ne pas en recevoir, parce que je suis un seul être humain tout seul, et que quand je disais pas non, surtout ne m'envoyez pas de manuscrits, j'en recevais plein par jour. Et je ne pouvais pas humainement les lire. C'est pas possible. Donc j'ai pas envie de mentir à tout le monde en disant oui, oui, bon, envoyez-moi vos manuscrits, et puis jamais répondre à personne parce que parce qu'en fait, je l'aurais jamais regardé, j'aurais pas le temps. Ça m'angoisserait. Donc, en vérité, je disais que mon auteur, ma meilleure vente, j'ai obtenu leur site, il est reçu par la poste. Ben, c'est parce qu'il n'y a pas de plus con du fait que c'était marqué sur notre site qu'on ne veut pas de manuscrits. Parce qu'en vérité, voilà. Bon, il faut nuancer ça. En plus, pour la collection Biothèque Miroir, donc la collection d'essais sur la culture populaire actuelle, je ne veux pas de manuscrits, mais je veux des projets. C'est-à-dire, je demande, si vous avez une idée de bouquin qui pourrait s'inscrire d'après vous dans cette collection-là, envoyez-moi un mail avec un plan, un petit pitch de votre bouquin, et on en discute, on voit si c'est faisable. Donc là, c'est des bouquins que je fais faire sur commande. Quasiment, la quasi-totalité de ces bouquins-là, c'est sur commande. Et puis, quant à la troisième collection, la Bibliothèque Rouge, en vérité, on les écrit nous-mêmes, quasiment. C'est-à-dire, j'en ai signé, bon, j'ai publié une centaine de bouquins dans la maison d'édition, j'avoue que j'en ai écrit 10 moi-même, et les 10 en question, ils sont tous dans la bibliothèque où j'en ai été, parce que comme cette collection est très particulière, avec une idée très particulière derrière la tête, la façon de faire, finalement, c'est moi et mes collaborateurs les plus proches, la plupart du temps, qui les ont écrits, et même, j'avoue aussi que même lorsque c'est des personnes extérieures à notre équipe la plus proche qui ont fait des bibliothèques rouges, on les a beaucoup réécrits, on a augmenté le texte, voilà. C'était quoi votre question?
Ah oui, d'accord. Comment vous faites connaître vos livres?
Alors, les romans, on n'y arrive pas, parce qu'on n'a pas d'attaché de presse, parce que les romans, ils s'en publient des tonnes. Donc soit ça marche par bouche à oreille, comme Jean-Philippe Jaworski et les 3 ou 4 autres bouquins qui ont marché dans la collection, mais on a publié 22 bouquins dans la collection, donc ça veut dire qu'on en a vendu 4 correctement et que tout le reste, c'est difficile. Et pour le reste, en fait, comme les bouquins qu'on fait sont tous sur des thèmes précis, en fait c'est simple, vous avez l'assistante de monsieur machin qui fait l'émission truc sur Radio Bidule, c'est tout le temps des assistantes, croire qu'il n'y a pas d'homme dans cette profession, a fait une recherche parce que son patron veut faire une émission sur, je ne sais pas moi, la guerre des mondes, sur les extraterrestres, sur les zombies, sur, voilà. Elle fait une recherche et elle trouve sur Internet, on trouve un livre sur le sujet, c'est le bon. Donc du coup, la promotion se fait automatiquement et on a une presse importante et auquel on ne s'attendait pas parce que vraiment, ils ont dans les grands médias, parce qu'on traite de sujets pointus et sur lesquels on est les seuls, ou quasiment la plupart du temps les seuls, à traiter. Il n'y a pas d'autres livres sur Sherlock Holmes disponibles que le nôtre, par exemple, et sur les Montipitons, c'est la première fois qu'il y a un bouquin français. Voilà, donc, en ce qui nous concerne, nous, la promo se fait naturelle.
Vous le faites par le choix de votre livre?
Finalement, oui, c'est naturellement par le fait que nos choix font que les journalistes viennent à nous et non pas le contraire, ce qui est sans doute un luxe, hein, parce que vraiment, moi je ne sais pas faire, allez, je ne connais pas les adresses des journalistes, je ne connais personne, et c'est tout le temps les journalistes qui viennent à nous, c'est formidable.
Les autres,
comment tu fais toi, Mathias?
La librairie, c'est le premier vecteur, pas de communication, mais de passage de témoins et de lecture. C'est la principale ressource. Et donc pour ça, il y a des diffuseurs, pour parler éventuellement. Il y a des gens qui vont visiter les librairies pour parler des livres. Et Et en termes de communication, oui, il y a un bouche à oreille, mais on peut dire que dans le cadre de la science-fiction et la littérature, il y a de moins en moins de, on se plaint beaucoup, mais il y a de moins en moins d'articles, de tribunes pour parler de science-fiction. Pour les confessions de demain. Alors, maintenant, en parallèle, il y a des blogs qui se développent, des réseaux, et c'est intéressant, on ne maîtrise pas du tout d'ailleurs, parce que ça peut tout d'un coup essaimer, et c'est très intéressant. On ne voit pas nécessairement d'où vient le son de départ, ça se fait là. Mais sinon, voilà, je connais, enfin, je pense comme toi, il y a 5 personnes qui écrivent des articles, enfin, qui peuvent en écrire, et qui passent surtout en science-fiction, et c'est tout. Donc, nous, on n'a pas de sujet qui s'impose, c'est pas un sujet. Voilà. C'est très ingrat, c'est étonnant, c'est mystérieux.
Je rebondis sur ce que dit Mathias. Il y a un truc important, c'est qu'évidemment, un éditeur, la première personne à qui il vend son livre, c'est au libraire. Nous, on ne vend pas nos livres aux lecteurs, on vend nos livres aux libraires. Et le rôle du libraire est crucial en ce sens qu'une bonne partie des succès sont faits par les libraires. C'est des bouquins que les libraires ont adorés et qu'ils conseillent. Ce dont on souffre en science-fiction beaucoup, c'est qu'il y a très peu, non seulement de chroniqueurs comme Mathias, mais aussi de vrais libraires qui aiment et qui conseillent la science-fiction. Et donc, Alain Damasio chez Mathias et Jean-Philippe Janowski chez moi ont très clairement bénéficié des coups de cœur des libraires, et c'est les libraires qui ont débuté le bouche à oreille absolument incroyable, qui a conduit au succès de la rencontre du corps d'autres gens, par exemple. C'est le gros problème de la science-fiction, c'est pour ça que c'est tellement minoritaire et que ça se vend si peu, c'est qu'il y a tellement peu de gens pour nous vendre nos bouquins, que nous vendre vraiment pour le conseiller, faire le vrai côté du livre, qu'on est en position de faire. Mathias est très fort, il a réussi à faire Beauverger et Damasio. Non, mais c'est vrai, dans le rayon science-fiction, ce que a fait Mathias est carrément pas courant, à savoir à trouver deux auteurs nouveaux et qui tous les deux soient forts, qui aient un vrai gros succès. Moi je suis super fier d'avoir trouvé Jabors. Mais moi j'en ai trouvé qu'un pour l'instant.
Évidemment, ma réponse va être différente, le problème n'est pas tout à fait le même. Il reste que la science, la science fait peur, forcément. La plupart des gens qui sont venus au livre par la littérature et les sciences humaines, et en général contre la science. C'est-à-dire que ce soit les bibliothécaires, que ce soit les libraires, que ce soit les journalistes, en fait, en général, ils ont vécu la science comme une sélection, et donc ils l'ont rejetée. Alors après, notre travail à nous, c'est d'essayer d'arriver à les convaincre qu'on peut arriver à faire de la science, qui soit non seulement compréhensible par tous, mais même agréable, agréable et séduisante. Voilà, alors ça c'est vraiment la bataille qui est la nôtre tous les jours. Alors on a des moyens un peu plus importants, parce que nous on est 5, on n'est pas très nombreux, mais on est quand même 5 salariés, on arrive à faire 12 5 salariés. Et dans les 5 salariés, il y a une attachée de presse qui se donne un mal énorme pour arriver à faire parler des ouvrages. On a surtout eu un gros succès d'estime dans l'ensemble, c'est-à-dire que on n'a pas des grandes ventes, mais je dirais que maintenant, en faisant, on peut dire que vraiment, que ce soit les libraires qui nous ont merveilleusement accueillis, que ce soit les bibliothécaires avec qui nous travaillons, les enseignants, le travail que nous avons fait a été remarqué, salué, donc encouragé. Et ça a été difficile, hein, bon, ça demande beaucoup de mouvement, ça oblige à aller, et moi je voulais vraiment remercier Alain qui nous a invités, qui nous a vraiment si chaleureusement accueillis, et le travail qu'il fait est formidable, et au fond, c'est grâce à tous ces passionnés que nous rencontrons tout le temps, parce que effectivement on essaye de répondre dans la mesure de nos possibilités à toutes les demandes, c'est grâce à ces passionnés qu'on arrive à faire connaître notre travail. Donc voilà, c'est un chemin petit et de longue haleine, mais voilà. Et je voudrais juste répondre sur les manuscrits rapidement, parce que ça, c'est une chose assez particulière. C'est-à-dire que nous aussi, on reçoit beaucoup de manuscrits, c'est-à-dire qu'en gros, en moyenne, je reçois 3 par jour, à peu près. Donc ça fait un millier par jour. Alors vous allez être horrifié, en 5 minutes en général, je sais ce que je vais en faire, même s'il y en a 3. C'est-à-dire, il y a ceux que je vais renvoyer immédiatement parce qu'ils n'ont rien compris à l'esprit de la maison, ou bien c'est un ingénieur en retraite qui imagine que Einstein n'a rien compris à la réactivité et qui propose la nouvelle version. Voilà, donc ça va aller vite. Et puis, il y a l'essentiel qui me pose problème en me disant est-ce que c'est intéressant ou pas. À ce moment-là, je serai parti entre les gens différents, etc. Et puis, il y a le coup de foudre. Il y en a eu quelques-uns, et vraiment, ça, c'est merveilleux. Et je racontais hier soir, j'ai comme ça eu un exemple d'un livre qui m'est arrivé un matin. Et une demi-heure après, j'appelais l'auteur en disant voilà, je prends votre livre. J'ai bien fait parce que le lendemain, il y avait 15 éditeurs qui l'appelaient. Et le lendemain, je l'ai eu avant, il a très bien marché ce livre. Voilà, donc ça implique, je veux dire, c'est important pour moi. J'en ai publié pas mal des livres que j'ai reçus par la poste. Et même des auteurs que je suis, que j'estime. Il y a de tout. Il y a vraiment des choses abominables et il y a des choses formidables. Et donc voilà. Donc je ne dis pas, vous ne m'envoyez pas. Je me dis, bon, ben, c'est mon métier de faire. La seule chose, c'est que je ne renvoie plus les manuscrits. Parce que 1000 par an, sinon, moi, je perds toute ma chemise. Donc.
Alors, la question de Jean-Léo est intéressante. Est-ce qu'il a envoyé lui un manuscrit ou une édition? C'était peut-être la question. Non, c'est bon. Donc, parce que ça ne revient pas après, il faut faire attention. Voilà. Donc, c'est vrai que c'est un gros travail. Alors, moi, je vais revenir un petit peu, évidemment, sur la partie libraire, parce que je suis aujourd'hui libraire, et aussi la partie, donc, salon de roman, parce que roman à roman, l'objectif justement de ce salon, c'est tous les ans de faire découvrir une certaine littérature. Moi, aujourd'hui, je considère en tant que libraire et en tant que responsable d'un salon, que c'est dans toutes les librairies, qu'on doit avoir un rayon et un espace au niveau de la littérature, de la science et de la fiction. C'est important. Je pense que la librairie spécialisée peut être intéressante évidemment pour les grands spécialistes de cette littérature et veulent retrouver toutes les collections, les espèces et les nouveautés. Mais je pense que pour moi, dans notre librairie, sur Retrieve ou ici, ce qui m'intéresse, c'est aussi de faire découvrir cette littérature à certaines personnes qui n'imaginent même pas. Combien de gens m'ont dit « Ouh là là, tu fais un sujet sur la science-fiction, et il n'y aura personne, des personnes âgées, il n'y aura que des jeunes, il n'y aura rien du tout, c'est une littérature un peu mineure, c'est un peu compliqué, c'est un peu bizarre et tout. » Je crois qu'on a la preuve là en venant en face de nous. La littérature, cette littérature de littérature de science et de science-fiction est une littérature qui a une approche fort intéressante. Il y a un grand public qui s'est créé donc, après les événements Harry Potter et compagnie. Des jeunes aujourd'hui qui ont 20-25 ans qui sont en train de s'ouvrir énormément à cette bonne littérature. Ce sont des écrivains majeurs dans une littérature qui est considérée une littérature de rayon quand même malgré tout en librairie. Et ça c'est très important. Je pense que les librairies doivent avoir toutes un rayon de littérature science-fiction, c'est très important. La seconde chose, et c'est le cas donc, en ce qui nous concerne, c'est important de diriger vers ce rayon-là, parce qu'une fois qu'on est embriqué dedans, on ne s'en sort plus normalement, on arrive à suivre tous les auteurs les uns après les autres et découvrir les Damasio, les Beauverger ou autres grands auteurs. La seconde chose que je voulais intervenir aussi, c'était au niveau de l'approche du rôle de la librairie, aujourd'hui indépendante, pour comment accueillir donc, un texte et ensuite après être le passeur par rapport à ses lecteurs et ses clients. Aujourd'hui, nous recevons des représentants, ces gens sont ce qu'on appelle diffusés par les groupes ou des distributeurs-diffuseurs. Les gens viennent chez nous donc, de proposer des programmes, et à ce moment-là, ils nous parlent déjà des livres. Parce que eux, juste avant, ils ont fait comme avec vous, mais en fin de compte, c'était des représentants, ils leur parlaient de leur production. Ces gens-là, après, viennent nous voir donc, dans les librairies, et nous parlaient un petit peu. Et finalement, évidemment, ça devient le coup de cœur du coup de cœur. C'est-à-dire qu'ils ont un petit coup de cœur, puis passent le message aux représentants qui eux nous ont un petit coup de cœur, et puis eux, les représentants viennent nous voir dans les librairies et nous commencent à nous parler des programmes qui sont des fois très importants pour le petit libraire que nous sommes. Et à un moment donné, ils nous parlent. À un moment donné, il y en a un qui a dit j'ai un éditeur qui, en réunion commerciale, il m'a parlé de Damasio, ça a l'air superbe. Alors qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Même le libraire s'y intéresse directement souvent, demande des services de presse d'ailleurs aux éditeurs pour pouvoir le lire en amont. Nous, en ce moment, nous travaillons les ouvrages de janvier-février. Donc, mettre en avance ce qui nous plaît, nous ne disons pas tout, les craintes, mais justement, c'est là où ce livre-là va devenir peut-être une petite merveille, et d'un seul coup, ce Damasio, ce Monty Python, ce texte qui aurait dû rester traditionnellement, va devenir un succès, et l'auteur va ressortir, et va redevenir, c'est vrai, alors ça, c'est tout à fait en raison, que Bourgerger et Damasio deviennent des écrivains majeurs aujourd'hui, dans la littérature de science-fiction, alors qu'il y a 7 ans, je rappelle qu'Adamasio d'ailleurs habitait donc le Vercors, et que dans la Horde, le Vercors est présent d'ailleurs. C'est vrai qu'à ce moment-là, c'était quelque chose qui démarrait, qui était inexistant. Aujourd'hui, ils font partie donc de ces éditeurs. Voilà. Donc c'est important que ce travail soit démontré. Et dans cette intervention, ce que je vais rajouter un petit peu aussi, c'était que ces éditeurs-là, en fait, par rapport à nous et par rapport au métier libraire en ce qui nous concerne, en fait, ils sont un peu dans des niches. En fait, pour moi, aujourd'hui, on nous présente des tonnes de choses, souvent intéressantes, liées souvent à des grosses marques d'éditeurs ou à des grosses marques d'auteurs. Et puis au milieu, on a ces artisans du livre qui nous proposent des choses un peu différentes et qui sont au milieu. Et c'est ce que j'appelle des niches. On arrive du coup à les repérer et à les mettre en avant dans nos librairies au fur et à mesure. Je pense que, quand je disais tout à l'heure que ton électrique est en train de se découvrir, je pense que c'était un peu plus long que certains, mais aujourd'hui, on commence à voir un petit peu l'ensemble du catalogue en librairie, parce que c'est un catalogue de fonds de grande qualité, mais il faut que nous, on y rentre dedans tous les jours au quotidien, pour vous proposer à vous des ouvrages de qualité.
Je vais prendre les commentaires. C'est-à-dire, comment faire connaître le grand public cette filière d'écriture, parce que pour moi, il n'y a pas la distinction, c'est une des manières françaises de classer tout. Je dirais, il y a des petites spécialisations, mais c'est la littérature. Et comment, dans un monde qui paradoxalement achète un livre moins avant, c'est paradoxal. Faire connaître, habituer à travers ces romans qui ont une spécificité, faire connaître l'écrit. Ça, toute la problématique.
Si on savait ça, on serait super riche. Si vous avez la réponse. On n'a pas la réponse, oui. Malheureusement. Je ne sais pas pour Mathias, moi je me suis trompé souvent. Voilà. Sur 22 romans et recueils, j'en ai vendu vraiment 4 correctement, donc c'est vous dire à quel point d'autres ne sont pas trop mal vendus quand même. Mais voilà, je me suis souvent trompé, évidemment. Bon, mais je disais que j'aime les livres papier, c'est évident, parce que j'essaye qu'ils soient beaux et j'essaye même qu'ils soient de plus en plus beaux. Néanmoins, j'ai rien contre le livre numérique et on est en train de travailler à faire des adaptations en format e-pub, donc en format lisible sur tablette et liseuse d'une quinzaine de nos titres, et on en fera d'autres plus tard, parce que ça nous paraît aussi important, pour ne pas se voiler la face, je pense que j'espère même que l'avenir de la lecture va passer par ce rebond vers le numérique. Hein. Ça sera peut-être pour nous un moyen de communiquer différemment et de vendre différemment et plus, j'espère. Et puis c'est aussi l'espoir, parce que je suis aussi auteur quand même, c'est aussi l'espoir de mérite que les auteurs soient mieux payés. Parce qu'il ne faut pas oublier que les auteurs, dans la chaîne du livre, c'est ceux qui touchent presque rien sur le prix d'un livre. Ils touchent, quand ils touchent 6%, ils sont contents. Hein. Le royalties d'un livre, c'est 6% en littérature, en tout cas. Ah, vous payez plus que ça, vous, sur le... Ah, ben, c'est vachement bien, ça.
Il faut aller au premier.
Il faut aller au premier, attention. Vous payez combien, vous, sur le premier?
Au moins 8.
Vous payez au moins 8, d'accord. D'accord, ben, c'est très bien. Ben, je ne sais pas pour Mathias, mais... En tant qu'auteur et en tant qu'éditeur, moi, les pourcentages que je connais en général, c'est entre 5 et 7%. Effectivement, 10% c'est bien, mais c'est pour des grosses ventes et en science-fiction. Je suppose que tu payes beaucoup M. Delmasio, mais les autres.
Pour pas eu de pourcentage, il n'y a pas la vol, tu ne mettons pas un modèle économique, tu n'as pas de salarié, donc c'est un peu autre chose. Non, nous c'est vite, au départ, voilà. Mais effectivement, l'auteur il n'en est pas, hein, la plupart du temps. C'est ça la question. Ensuite, pour revenir sur la question de pas la niche, non, mais pas les repères, c'est que pas tous, d'ailleurs en science-fiction, parce que là on parle de littérature de science-fiction de science, on manque de repères, on ne sait pas ce que c'est, des gens qui pensent qu'ils n'en lisent pas, alors qu'en réalité ils en lisent sans le savoir. Les frontières sont ténues et je ne lance pas le débat, comme j'avais dit, de toute manière, sur ce que c'est que la science-fiction. Voilà, c'est la curiosité des gens. Et par rapport au marketing ou à plein d'autres choses, pour lancer des livres ou pour définir des collections, à la Volt, et je pense que c'est pareil pour toi, c'est déjà faire quelque chose de cohérent, c'est déjà un gros travail, une envie, une cohérence, pouvoir donner le maximum de place à l'auteur, aux auteurs, pour que le rendu soit le mieux possible. Et puis faire des objets en plus, même si tu fais du numérique, je pense que le fait que tu aies du numérique et des objets qui vont en gamme, ça sera peut-être, on peut espérer, complémentaire. Mais c'est peut-être beaucoup de gens qui ont besoin de repères, enfin, peut-être de là pour beaucoup d'autres choses, mais pour la littérature c'est ça, et pour la littérature de science-fiction, c'est. Je crois que les gens ne savent pas, il y a des termes barbares, il y a des couvertures affriolantes, il y a beaucoup de production dans certains domaines, pas dans tous. Et donc, je redis, peut-être qu'il y a des blogs, peut-être qu'il y a des voix qui, justement, parlent de leur lecture, mais la médiation de la librairie semble essentielle. Mais il y a beaucoup de libraires aussi qui s'y perdent aussi dans ces repères et qui ont des préventions sur. Je pense que la science-fiction, c'est pas pour leur clientèle, que ce sont des jeunes adolescents boutonneux qui savent déjà ce qu'ils veulent avant d'entrer dans la librairie. C'est très pratique de penser ça, donc il n'y a pas de travail à faire. Je pense je ne vais pas parler de science-fiction, mais d'imaginaire, beaucoup de gens lisent Murakami, Haruki Murakami en littérature générale. Voilà, on est, on pourrait très bien mettre dans un autre rayon, enfin, c'est qu'une question de rayon, voilà, il ne faut pas que ce soit discriminant, voilà, pour Murakami. Oui,
tu as raison sur Murakami. Et d'ailleurs, il y a 4 romans seulement que j'ai vendus vraiment bien, et un des 4, je l'ai mis en littérature étrangère. Je n'ai pas mis en science-fiction, parce que c'est par Stephen Fry, qui est un acteur anglais un peu connu, et qui, en tant qu'écrivain, était aussi un petit peu connu, parce qu'il avait eu 3 bouquins chez Belfond, repris chez Gélu quand même. Il n'avait pas publié bizarrement, donc je l'ai publié, et du coup, Hugo, vu qu'il était pendant le ghetto science-fiction, où le nom de Stephen Fry aurait été absolument inconnu, c'est un bouquin qui a vraiment très très bien marché.
Je
peux
poser des questions donc.
La salle.
La salle. Je fais la mise en
œuvre. Vous pouvez venir tout à la ville.
Ah bon ? Excusez-moi.
Captain, je vous remercie.
Donc si vous devez poser des questions. Au début, c'est difficile, je sais. Mais après. Première question, en fait. Je vais me poser comme question à des éditeurs qui reçoivent un manuscrit, qui fournissent, qui façonnent, qui.
J'ai pas parlé des manuscrits.
Qui sculptent.
J'ai pas parlé des manuscrits. Là, ça m'angoisse parce que. Alors que. Voilà. Je m'étais promis, évidemment, comme tout éditeur débutant, quand j'ai pas le temps, quand j'ai fait ça, mais moi je vais leur répondre, même si j'en cherche pas, parce que pour faire 30 titres par an, je sais déjà à peu près qui on veut publier, en réalité, je n'arrive pas, ça me bloque. Enfin, il y a beaucoup de volonté autour de nous, c'est pas une association, mais il y a beaucoup de gens autour de chaque projet, on est toujours un groupe, ça crée de l'énergie, donc j'essaie de récupérer des gens pour aller lire les manuscrits et ouvrir les enveloppes. Ça s'amoncelle chez moi, ça me rend malade, je ne peux pas répondre aux couleurs. Et régulièrement, quand j'ouvre les enveloppes, de toute manière, ça ne me correspond pas. En plus, nous, on a une ligne très particulière. Il faut que soit très exigeant d'un point de vue littéraire, et souvent je reçois de la fantaisie où je vois que c'est je sais pas, la planète Zorglub ou Aïcha, voilà, avec une carte et puis des manuscrits comme ça. En plus, je n'ai pas le temps d'aller à la poste parce que je travaille pendant la journée ailleurs, donc voilà. Donc le manuscrit, c'est dur. Maintenant, il y a des mails, on peut échanger, on peut parler de projets, on se rencontre dans des salons, mais je lis le manuscrit, mais pas comme ça à la poste. Donc je vais mettre sur mon site aussi. Qu'on s'était convaincu de faire que nous n'acceptons pas de manuscrits. Voilà.
Vous conseillons de ne pas envoyer de manuscrits.
Conseillons de ne pas les envoyer. De toute manière, nous n'irons pas les chercher.
Comment vous pouvez-vous découvrir de nouveaux auteurs?
C'est une bonne question. Alain Damasio, on parle toujours du même. Bon. Alain Damasio, c'est quelqu'un que j'avais croisé dans une vie antérieure et qui connaissait personne dans l'édition, donc s'est adressé à moi dans une soirée. Tu n'étais pas à la soirée, donc je ne sais pas. Donc dans une soirée, et il m'a parlé de son projet, qu'il écrivait quelque chose, que certains narrateurs, qu'on ne saurait pas qui parlerait, tout ça. Et je lui ai dit, enfin lui il m'a mal pris, je lui ai dit, bah oui, bah, écris-le, on verra après. Et il est revenu plus tard, c'était pas l'ordre du contrement, c'était la zone du dehors, qui était son premier roman. Et voilà, donc c'est par un réseau, il n'a pas été coopté, mais il a su trouver quelqu'un. Puis bon, moi j'ai cherché un éditeur pour lui, on l'a publié ailleurs à cette époque. Voilà, c'est des rencontres, je ne cherche pas à tout prix à découvrir des auteurs. Je ne sais pas, mais c'est, de toute manière, à un moment, ils enverront par la poste, par manuscrit, ça c'est sûr, mais. Ou en ayant prévenu, ou en tout cas en ayant envoyé par fichier loin. Et puis, bah, en faisant 3 ou 4 livres par an, de toute manière, ça s'anime. C'est
bien. Une question. Quel était le livre, si vous êtes arrivé, que vous avez eu un coup de cœur, mais c'était un flop auprès du public?
Oui, ben ça arrive. Je n'ai pas compris la question, en fait. Ça arrive, oui, qu'on ait un flop alors que.
Le gros coup de cœur qui était un très bon flop.
Ah, ben oui, ben,
aussi gros que le coup de cœur.
Ben, ça arrive. Hein. J'en parlais tout à l'heure, ben, la personne qui m'a fait une bise, c'est Libray, donc un des auteurs. Et je lui disais qu'un des bouquins que j'ai publié au tout début n'a pas marché du tout. Et a tellement pas marché que l'auteur a arrêté d'écrire de la science-fiction, il fait des scénarios de bande dessinée. Tant mieux pour la bande dessinée, hein. Mais dommage pour la prose. Et ça reste sur l'estomac, quoi, ce roman, parce que c'est une retroussine de Laurent Cassy, c'est de la science-fiction. Et les libraires nous ont suivis, hein, donc on va pas, là, il n'est pas question de dire « Oh, les libraires, ils n'ont pas... » Non, les libraires n'ont pas été cons, ils l'ont pris et tout, il n'y a pas eu de lecteur, voilà, au secours. Donc, bah, oui, c'est une grosse déception, et pour lui, et pour moi. On va d'ailleurs le remettre en vente au niveau numérique, du coup. Enfin bon, voilà, c'est un livre qui est un peu mort, malheureusement.
Et pour Sophie?
C'est difficile parce qu'en fait, malheureusement, il y en a eu pas mal.
Avec 500.
Mais je dirais, par exemple, récemment, l'année dernière, on a fait un livre que j'ai beaucoup aimé qui s'appelle Regard sur le sport. Alors, ça n'a rien à voir avec ce dont on parle à l'instant, c'est de la philo un peu, et de la science, mais ça n'a rien à voir avec la littérature. Et c'était un livre où il y avait des gens très très divers qui prenaient la parole, des philosophes, des scientifiques, des sociologues, et qui disaient ce que pour le sport était pour eux, et ça n'a pas fonctionné. Alors, je dirais que, en fait, mes grandes déceptions ont peut-être été souvent des déceptions de livres illustrés. C'est-à-dire qu'on a voulu faire des livres illustrés. Je me souviens par exemple d'un livre qu'on avait fait avec Jean Bernard, qui était un homme extraordinaire, et on avait fait un petit livre qui s'appelait Variations sur la création, et voilà, ça a été un flop.
Ça arrive.
Mais ça arrive tout le temps dans la vie d'un éditeur, ça arrive tout le temps. Il y a les surprises dans les deux sens, quoi. Il y a aussi des ouvrages dont on ne pense pas qu'ils vont. Et puis on a l'heureuse surprise de voir que tout d'un coup. Alors, moi je voulais rajouter une chose à propos de la communication. Il y a quelque chose qui quand même change en ce moment, c'est les blogs. Je suis surprise de voir à quel point ils sont en train de prendre de l'importance et de fonctionner entre eux, d'avoir des réseaux à temps en temps, on envoie quelques livres à des gens qui nous les demandent, mais à partir de là, ça fonctionne tout seul. Les gens font les critiques, les envoient à leurs copains, qui les envoient à d'autres gens, etc. Et tout d'un coup, il y a une espèce de bouche à oreille formidable qui est en train de se... Et ce qui est merveilleux dans ces cas-là, c'est que c'est vraiment des gens qui aiment, quoi. C'est des passionnés qui tout d'un coup découvrent un livre, le font savoir à tous les gens qui connaissent, et c'est assez sympathique, comme une nouvelle forme de communication.
C'est un beau chemin public.
Voilà,
et Mathias, peut-être.
Ah oui, les flops.
Les flops, avec quel livre par an ?
Oui, mais alors, il faut peut-être parler des ventes, parce que peut-être que beaucoup de gens imaginent. Enfin, je ne sais pas ce que vous imaginez, je ne vais pas vous poser la question, vous pouvez vous exprimer. C'est, mais même dans les gens de la chaîne du livre ou des libraires ailleurs, j'ai l'impression qu'on imagine. En général, la littérature, par exemple, se vend évidemment au-dessus de 2000 exemplaires. Ça paraît pas beaucoup, 2000 exemplaires, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Voilà, en fait, c'est beaucoup. Mais même parmi les auteurs, on aimerait se poser des questions. C'est beaucoup, 2000. Ça ne peut pas gagner cette impression, c'est ce qu'on disait, que ce soit 6 ou 8, mais pour surtout. Mais donc, que ce soit en littérature étrangère ou en littérature de science-fiction, il y a beaucoup de livres qui se vendent à 500 exemplaires, 400 exemplaires. Voilà, moi je ne considère pas que ce soit un flop, c'est toujours décevant. Mais c'est vrai que nous, on ne fait pas de compte d'exploitation, on ne se dit pas de toute manière, il faut en vendre au moins 1500 pour rentrer dans nos frais. On se dit, on les fait. Donc je suis toujours déçu quand ça ne touche pas plus de 500 personnes, c'est-à-dire qu'on a plus, 500 acheteurs. Les flops, un vrai flop aussi, ça, c'est quand il y a un gros tirage, le bide. C'est, il y a un très gros tirage, il y en a partout en librairie, donc les libraires ont cru, et tout revient, parce que vous savez que quand un livre ne s'est pas vendu, il est retourné. Et là, c'est financièrement, et puis philosophiquement, et psychologiquement, c'est très difficile. Nous, c'est pas notre façon de faire, mais bon, enfin, c'est, on est dans un petit monde. Hein. Voilà, donc un flop, c'est plus ça. Après, des déceptions, je pense qu'on en a toujours. Et en même temps, on sait que, non, a priori, voilà, un livre, il se vend à moins de 1000 exemplaires. Ben, ça ne se dit pas assez. Hein. Je crois que les éditeurs aussi font des fois des surenchères auprès d'auteurs, des auteurs succès, comme on parlait salaire, des choses comme ça, on en prend un peu. On exagère, on a rendu peut-être, mais donc, tout le monde dit, moi j'ai rendu un salon, peut-être là, les auteurs, ils sont en train de se raconter tous. Ils vendent tous 5000 exemplaires ou 10 000 exemplaires, sinon ils ne sont pas crédibles. Quand les représentants vont à l'Imoire, ils vont dire, ah oui, bien sûr, le tirage c'est 10 000 exemplaires, en dessous de 10 000 exemplaires, l'Imoire, il ne croit pas trop. Hein. Donc on raconte beaucoup de bêtises.
Tu tires combien d'exemplaires ?
Nous,
minimum. Ah ouais.
Nous, on tire. C'est beaucoup trop haut, c'est comme pour les manuscrits. On s'est dit, nous, on va faire. On fait toutes les bêtises des autres qui les ont déjà faites depuis longtemps. On tire à 2000 exemplaires. Maintenant, ça y est, je me suis résolu à en tirer 1500. Et c'est peut-être encore pour. Alors, on est tous très très experts, libraires, éditeurs, tout ça, après coup. Hein. Après coup, on sait qu'on aurait dû en faire moins, ou qu'on sait tous peut-être pourquoi ça ne s'est pas vendu, mais bon, chaque livre est différent. Donc c'est difficile aussi d'en tirer une leçon pour un livre d'après. Puis on est quand même optimiste.
Et tes tirages moyens en vrai ?
Non, c'est exactement pareil. C'est exactement pareil. C'est 1000, enfin 1200 en l'occurrence, ou 1600. Ou de... Voilà, mais enfin généralement c'est existant, quoi, hein, pas du temps. Bah, pour les romans, de toute façon, à part ceux qui ont marché, alors bon, moi je peux vous dire les chiffres, hein, celui qui a super marché chez nous, c'est 5000 exemplaires. C'est pas encore grand chose, hein, en vérité, hein, c'est pas beaucoup. Et les autres. Oui, par contre,
gagner
la guerre, 5000 en chez moi. Par contre, 12 000 en poche. Alors là, par contre, pour l'instant, il n'est pas très vieux. Donc, c'est sûr qu'avec le poche, là, par contre, parce qu'on a un partenariat avec Folio. D'ailleurs, le décrénologue aussi, et les canadiens sont aussi chez Folio. Donc, ça, c'est important aussi pour nous, les petits éditeurs, d'avoir ce partenariat avec Folio en particulier. Parce qu'il multiplie nos ventes et notre présence. Hein,
c'est moins cher.
Voilà.
C'est moins cher, ça touche à notre public.
Visibilité.
Ouais. Oui. Et puis alors, moi j'adore travailler avec Folio, parce que j'ai essayé de travailler avec d'autres, et ça ne s'est pas très bien passé, je trouve. Chez Folio, c'est que d'abord leurs bouquins sont parfaits, ils sont vraiment au cordeau, parfaitement faits, solides, vraiment bien fabriqués, c'est pas du poche merdique. Et puis les bouquins sont vendus tout le temps. C'est-à-dire, c'est pas un éditeur, la plupart des éditeurs de punch, le bouquin il est en vente en nouveauté. Et puis après, bye bye, il n'existe plus. Ben non, les bouquins des boutons électriques ou de la Volt qui sont parus chez Folio, ils sont tout le temps disponibles, il y en a tout le temps qui se vendent. Du coup, voilà, on parvient à des chiffres importants.
Un exemple complètement d'ailleurs différent avec le Bobby. Les tirages, les ventes, les.
Oui, alors, oui et non, parce que en fiction, on se rapproche quand même de vos expériences. Hein. Alors, c'est vrai qu'avec les petites pommes, par exemple, ou les unipommes dont je vous parlais tout à l'heure, des petits livres comme ça qui sont pas chers, et même les poches, en gros, c'est drôle d'ailleurs, on est arrivé à un tirage idéal de 2200 exemplaires. C'est, voilà, parce que quand on en a pris 2005, on en garde trop, sauf ceux qui partent, bien sûr, il y en a quand même. Et puis quand on en a pris moins, il n'y en a pas assez. Voilà, nous, c'est un peu notre chiffre, nous, c'est 2002. Bon. Pour ces petites collections-là, mais après, ça dépend. Tout à l'heure, je vous parlais par exemple de ce livre qui s'appelle Les 50 expériences. Voilà, là, c'est casse-tête par exemple. Je ne peux pas fabriquer ça en France. Si je fais fabriquer ça en France, je vais vendre 35 euros et personne ne va me l'acheter. Donc, pour avoir un truc possible, je vais aller en Chine. Bon, j'aime pas ça, en général, j'aime pas ça. Bon, mais voilà, je voulais le rendre possible. En Chine, donc, il faut 6 mois pour l'avoir. Donc, j'en ai fait fabriquer 5000 exemplaires. J'ai pris un risque, tout le monde le sait, mais il ne faut pas t'attendre. Les représentants, contrairement à ce que je pensais, ils m'en ont mis 4005 en place. C'est-à-dire que j'en avais quasiment plus le jour de la sortie. Et donc il faut réimprimer. Mais 6 mois, je ne peux pas. Alors j'ai trouvé, en le grand bonheur, un quelqu'un qui a accepté de ne faire pas trop cher en Espagne. Bon, en France, toujours pas. Alors ça, c'est seulement un mois et demi. Mais c'est l'enfer, parce que moi, un mois et demi, ça va arriver après Noël. Donc est-ce que ça et c'est là qu'un éditeur perd sa chemise. Parce qu'à ce moment-là, il n'a rien imprimé pour rien, les ouvrages reviennent, mais on a des retours plus la réimpression qu'on a fait pour rien. Donc c'est un des casse-têtes de l'édition, c'est ça, c'est d'arriver à gérer le bon stock. Et aller dire à un auteur après que vous n'avez pas réimprimé parce que vous avez peur que ce soit épuisé, il ne va pas être content que ce soit, pardon, que ça revienne, il ne va pas être content du tout. Donc, en général, on réimprime quand même. Voilà. Donc, c'est aussi un piège. Les pièges, ils sont dans tous les sens.
De toute façon, ni l'auteur, ni le public peut imaginer cette jauge. Puisque pour vous, et pour les auteurs, on voit des flux permanents de livres en librairie. Donc, c'est strictement impossible d'imaginer que le bouquin va être en rupture, que le bouquin... c'est pas possible d'imaginer. Les bouquins sont pas en rupture, parce qu'évidemment, vous avez 4500 exemplaires mis en place d'un bouquin comme ça. Moi, mettons, j'en ai pris 3. J'en vends 3 demain matin. Après-demain, j'en recommande 2. Il n'y en a plus, alors qu'il y a 4000 livres qui sont encore dans les autres librairies à travers la France. C'est ça la grande difficulté aujourd'hui de l'éditeur et du distributeur, évidemment.
Je voudrais, à propos, raconter une histoire. Quand le premier a démarré, en fait, il a démarré sous l'égide d'Hachette. Sa première année, elle a été chez Hachette. D'abord, François Viré et comme Hachette, François indépendant. Et donc, on a dans le premier livre, c'était L'éloge de la désobéissance de René Romain et Gal Sivan, qui est un livre que j'adore. Et mise en place 7000 exemplaires. Alors là, on était dans le royaume des
chez Hachette.
Dans le royaume chez Hachette. 7000 exemplaires. On était contents, c'était super. Et puis, réassort, 7000 exemplaires.
Deuxième appui.
Alors, on réimprime, mais retour, 7000 exemplaires.
Bien et mauvais.
Tous pilonnés.
Bien et mauvais.
Parce qu'on ne peut pas récupérer chez Hachette, on ne récupère pas les bouquins. Ils sont pilonnés. Bon, on arrête. Après ça, c'est bien rien
de faire. C'est des histoires qui sont hyper importantes dans l'édition et qu'il faut arriver à comprendre. Ça dépend évidemment du distributeur et de la façon de travailler. Certains distributeurs, René Toile sait que si on va travailler avec certains distributeurs, on va pouvoir faire un travail de longue haleine et on sait qu'il y aura un travail régulier, etc. Et on sait qu'avec d'autres, c'est malheureusement le cas d'Hachette, on sait qu'il y a une immense mécanique, parce que c'est vrai que c'est des ventes énormes pour nous en librairie aussi, globalement, et du coup cette mécanique, elle est suivie, et c'est vrai que c'est infernal. Et même des fois, nous, on dit aux représentants parfois en librairie, et, non, j'en prends que deux, parce que c'est pas la peine, on va en prendre trois, et puis si j'en vends deux, je prends un réassort, je continue, ce qui évitera souvent à l'éditeur de faire un deuxième tirage. On dit souvent d'ailleurs que le retirage, c'est le retirage de la mort, parce que c'est là où on est parti vers une histoire. Alors, j'ai personnellement un vécu d'édition sur ce sujet, donc j'ai les deux facettes du livre, mais c'est vrai que c'est terrible. C'est terrible parce que du coup, plus personne ne comprend rien et ça devient une grande histoire. D'où l'intérêt de voir ces petites maisons d'édition qui arrivent justement à gérer ce flux en montrant un vrai catalogue, en montrant des auteurs, faire enfin, des choses, et qui évoluent au fur et à mesure. Comment dans les petites structures, et petit à petit vont remonter, et il faut qu'ils gèrent ça, etc. Le jour où il y a un problème, vous savez quand est-ce que c'est le jour où ils ont un vrai best-seller. Et là, pour un petit éditeur, c'est une vraie catastrophe. Je connais peu de petits éditeurs qui sont sortis après un best-seller. Ça peut être le contraire. Vous avez gagné un ticket, vous avez gagné le loto, vous allez dire, ça y est, ma vie est tranquille. Méfiance, là, vous en parlez. Voilà. Et puis, pour un éditeur, le jour où il a gagné le jackpot, et ça peut arriver, on en a connu beaucoup, chaque fois, systématiquement, 5 ans après, ils sont morts et enterrés. Ah, il faut citer ceux qui existent toujours, des gros éditeurs ont tiré le vent, le jackpot, ceux qui ont vraiment un gros coup. Pour cette raison-là, après on continue, on grossit, et après les retours arrivent, et ça devient une chaîne inverse, très, très difficile donc, à gérer dans le quotidien, parce que le livre était quand même un objet vivant qui existe en librairie, mais qui vient, qui repart, et qui a une existence assez éphémère parfois, même si les collections de fonds, donc, comme Folio, comme Pocket, Science Fiction et d'autres collections, la science fiction a tendance un petit peu à poser les livres quand même dans les rayons en librairie, grâce à des habitudes de fonctionnement sur des couvertures, sur des auteurs, etc. Mais c'est vrai que c'est toujours un peu difficile pour d'autres éditeurs de monter ces collections et les faire rester.
Une autre question. Quel était l'impact des grandes centrales de vente sur Internet sur la vente des livres? Parce que moi je vois, on vend aussi les livres, les particuliers peuvent le vendre mon livre, donc il y a une circulation qui fait que l'éditeur appelle des copies originales qui ont connu. Je ne sais pas s'il y a des mesures et qu'est-ce qu'était le changement du lecteur grâce à cette possibilité. Moi, j'achète un livre, ça ne me veut pas, mais je le remets en vente. Et j'espère que quelqu'un va me l'acheter, que je reviens dans mes frais.
Deux questions. Je vais se diviser en deux parties. D'abord, il y a la question de l'occasion. Je pense que c'est intéressant parce qu'en construction, il y a toujours beaucoup d'occasions. Ça, c'est. Et, bon, en tout cas, les fans, enfin, ceux qui lisent beaucoup de science-fiction, qui achètent beaucoup, peuvent prendre du poche ou du neuf. Pardon, l'occasion du neuf. On ne sait pas ça. On ne sait pas. Là, je parle pour l'ensemble de la chaîne du livre. L'impact de l'occasion sur. C'est-à-dire l'occasion qui s'est démultipliée, puisqu'effectivement tout un chacun peut revendre son cadeau de Noël sur eBay le 27 décembre ou revendre ses livres. Et effectivement, quand on va sur Amazon, pour ne pas les citer, aujourd'hui on vous propose le livre neuf qui vient de sortir et le même livre à prix réduit. Bon, je pense que ça brouille un peu tous les repères. Mais cet impact-là, on ne sait pas. J'ai vu que chez Joseph Gilbert, qui vend beaucoup de. L'occasion, en ce moment, il est un peu embêté économiquement, parce que c'est plutôt l'occasion qui remonte. Peut-être un signe aussi de crise, hein, d'indicateur. Après, la deuxième partie, c'est Amazon. Amazon pour le neuf. Je veux dire, donc, sur cette question-là, il est très intéressant de noter que pour tous les éditeurs, c'est le premier revendeur. Donc, on peut dire qu'est-ce qu'on fait contre, hein, certains essayent. mais c'est le premier revendeur. Et il continue d'augmenter pour des bonnes et mauvaises raisons, peu importe, en tout cas c'est fait. Il y a après des discussions entre éditeurs et libraires dans la progression pour savoir à qui la faute. Est-ce que c'est parce que le libraire, j'ai déjà entendu ça, le libraire ne tient pas les livres en librairie, le font, donc le lecteur va sur internet pour commander. Est-ce que, comme dit le libraire, c'est parce que ça se vend sur Amazon que lui-même ne le vend pas dans sa librairie? Bon, là, chacun est juge, mais en tout cas, rien n'a été démontré. Je pense que là, c'est intéressant d'en parler, même pour faire un peu de prosélytisme, mais je ne fais pas de prosélytisme sur la maison indépendante ou la petite maison. Il y a des petites maisons qui ne sont pas bien et qui ne font pas de qualité. Il y en a qui font des livres très bien et de façon artisanale, et des grosses maisons qui ne font pas bien ou qui font très bien. Je ne fais pas le petit, small is beautiful. Mais sur Internet, en revanche, c'est vrai qu'autour de nous, je pense que tout le monde a petit à petit un réflexe qui est peut-être de ne pas aller demander à son libraire à côté s'il a le livre, ou tout simplement si le libraire recommandé, parce qu'en réalité, le libraire vous trouvera le livre dans le même temps que Amazon vous le fournira, sauf qu'il faudra aller chez lui, faudra aller chez le libraire pour aller le chercher. Et c'est peut-être tout simplement une façon de consommer. Quoi. Beaucoup de gens vont sur Amazon parce qu'ils vont sur Amazon et ils ne savent pas que leur libraire a le même. Parfois un site. Ils pensent que tout est disponible sur Amazon, en fait. Rien n'est vraiment sur Amazon. Amazon commande et ensuite ils envoient. Il a quand même des entrepôts. Voilà. Et voilà, c'est plus des façons de faire. On voit en revanche que ça grossit. Et on ne sait pas au détriment de qui. Nécessairement au détriment de la librairie. On se demande si c'est pas aussi beaucoup par rapport à l'export. Beaucoup de gens à l'étranger aussi, peut-être des expatriés qui commandent. En tout cas, voilà, c'est incontournable. Et il n'y a pas à refuser, enfin, c'est pas la question, refuser de vendre à Amazon. Alors on ne le dit pas des fois au libraire, parce que, il n'est pas content. Hein. Voilà, c'est un fait. C'est ton premier revendeur également?
Ah oui, ça oui, maintenant c'est devenu ton premier revendeur, ça c'est assurément, oui, bien sûr. C'est un chiffre qui nous effraie au début. Le problème qu'on rencontre avec Amazon, c'est qu'il très chaud pour travailler avec les petits éditeurs indépendants. Donc il faut savoir que les motos électriques, pour l'instant, sont chez un petit distributeur, un tout petit. La Volt est chez un gros distributeur. On va être chez un gros l'an prochain, donc on va voir, ça va tout changer pour nous, enfin, ça va changer l'état de paradigme de fonctionnement. Pareil pour la QSF, qui est notre éditeur qui est là sur le salon et qui est en bas. Lui aussi vient de rentrer chez Harmonia, donc là on va découvrir comment ça fonctionne pour nous. Et pour l'instant, on a ce problème, c'est que Amazon souvent marque que les titres des boutons écrits sont non disponibles. Alors qu'ils le sont disponibles, bien sûr. Et donc, c'est pas moi qui m'en occupe, c'est un de mes amis. Je précise, lui, d'ailleurs, qu'en bouton électrique, non plus, on n'a pas de salariés. Et donc j'ai appelé qu'un de mes collaborateurs qui de temps en temps écrit à Amazon pour lui dire, bah, attendez, là, sur telle fiche, j'ai marqué que le bouquin n'est pas disponible, alors qu'il y a un stock, etc. Il faut tout le temps les harceler pour qu'ils acceptent de faire leur boulot. Voilà. Là, ça c'est un problème. L'autre problème qui est vraiment pas grave, vraiment, mais ils nous ont volé nos clients. C'est-à-dire que nous, les boutons électriques, on a un site et qu'on faisait de la vente par correspondance, on fait de la vente par correspondance par notre site. Et ça s'est effondré. Voilà. Et QSF aussi, dans les mêmes proportions, hein, donc c'est visiblement les mêmes causes, les mêmes effets. Notre vente par correspondance directe s'est effondrée, ce qui évidemment nous chagrine beaucoup parce que, évidemment, quand on fait de la vente directe, les 60% du distributeur, on le garde dans notre poche, donc on garde beaucoup plus d'argent, plus d'argent qu'on touche tout de suite. Donc voilà, on faisait au mouton, on faisait 2 500 € par mois, on en fait 800. Ça nous fait vachement d'argent de poche en moins. Hein. Voilà, bon, mais on sait très bien que la différence, c'est qu'il y a une manière, il y a Amazon qui vend plein. Quoi. C'est comme ça, voilà, c'est tout.
Alors, on vient de citer à peu près, je crois, 29 fois le mot Amazon. On va citer 29 fois que les librairies indépendantes existent, qu'elles font un travail dans chaque librairie, elles proposent des livres directement, elles passent des livres dans les mains des lecteurs, elles leur proposent, elles lisent des livres, alors que le site Amazon ne font que faire des copier-coller donc, sur leur site internet et avoir des facilités. Donc, alors, avoir la question de la facilité, ça c'est surpris. on a des facilités d'envoi et de transport. Par contre, le reste, le prix du livre est unique. Chez un libraire indépendant, à la manufacture, ici, donc à Romans, Les Cordeliers, chapitre.com ou au Bazar des Mots, donc à Haute-Rive, qui sont les partenaires de ce salon, Amazon n'est pas partenaire de ce salon du livre. Je voudrais savoir lequel. Mais aujourd'hui, ces libraires, petit à petit, on travaille entre nous. Nous sommes indépendants, mais on travaille entre nous. Nous lançons, comme je disais, un client qui est sur Haute-Rive, le bouquin est à Romans, ben tiens, vous pouvez chercher à Romans chez un ami libraire, etc. Ça existe aujourd'hui, c'est les réponses que nous faisons. Je sais que dans l'Est parisien, il y a une magnifique association libresque, donc de libraires indépendants, et les livres sont vraiment magnifiquement faits. Mais le livre et le prix le même partout. Le prix est le même partout. Vous commandiez donc Amazon, dans librairie indépendante, le prix est le même partout. Et si la TVA augmente, il augmentera partout aussi. Sauf qu'Amazon eux, n'a rien à secouer de l'augmentation de la TVA par rapport à leur marge générale. Alors, enfin, rien à secouer, c'est un peu compliqué pour eux, mais au moins, ils ont d'autres marges derrière. En ce qui nous concerne, c'est un vrai combat aujourd'hui que nous allons mener pour que le livre reste à la TVA, donc le produit culturel, à 5,5%. Mais le livre est le même, le prix du livre est le même partout. C'est la raison pour laquelle vous avez deux librairies aujourd'hui indépendantes sur Romans, qui n'est pas une grosse ville quand même, et que des librairies comme les nôtres peuvent s'installer ailleurs. Après, c'est vrai qu'il y a des choix de vie, il y a des choix, il y a des facilités, etc. Nous, on a des clients qui, évidemment, étant tout en zone rurale, qui vont évidemment beaucoup plus facilement sur Amazon, mais qui, à un moment donné, après 3-4 derrière le bouquin par refait, etc., ben, ils reviennent un petit peu. Notre travail, c'est pas de dire les méchants. Notre travail, nous, c'est de dire on va vous proposer un conseil, on va vous proposer un travail précis, on vous propose aussi des remises de fidélité, comme ils ont d'ailleurs dans ces sites-là. Nous aussi, les gens qui sont clients fidèles, ils ont 5% de remise dans tous les livres, quand c'est le Bazar des Mots. Je crois que c'est pareil pour mes deux amis donc, de Romans. Mais c'est ça la réponse que nous pouvons faire au fur et à mesure. Et finalement, les deux librairies que je connais très bien au niveau, cette jeune librairie dont les Cordeliers reprises il y a peu de temps et la nôtre, nous sommes, nous aujourd'hui, en progression aussi constante, autant qu'Amazon aujourd'hui est en progression constante. Et je fournis, grâce à un distributeur, en l'occurrence, qui est ici aussi en plus, nous fournissons aussi des bouquins en 48 heures. Non, ce qui nous concerne à Haute-Rive, 48 heures après, un mail du soir, le bouquin est présent le vendredi, nous envoyons un mail au client, il vient chercher dans le week-end, tout est là. Donc ça existe aussi. Notre travail à nous, c'est de montrer que ça fonctionne, et ce qui nous concerne, ça fonctionne plutôt très bien en ce moment.
Moi, je voudrais ajouter autre chose, c'est que les libraires, en plus, ils organisent, comme vous voyez, des rencontres, ils organisent tout un tas de manifestations autour des livres, et je voudrais ajouter un dernier point, c'est que en France, nous avons un réseau libraire exceptionnel. Nous sommes malheureusement un des derniers pays au monde, avec l'Allemagne, à avoir un réseau de qualité. L'Italie, mais l'Italie, ça diminue là. L'Italie est en danger en ce moment, sur tous les plans. Et ça se voyait par exemple à Francfort, la foire internationale, cette année, c'était très triste de voir que, conséquence directe de la disparition des libraires, les éditeurs disparaissent aussi. Et les allées en Espagne, en Italie, à Francfort, c'était que des gros groupes, avec tous les anciens copains que je connaissais qui s'étaient fait manger par les gros groupes. Et donc, moi, j'attire vraiment l'attention de tout le monde sur l'essentielle contribution des libraires à l'indépendance des éditeurs et donc à la liberté de création et à la qualité de la liberté de création. Parce qu'en fait, si on perd nos libraires, on va nous disparaître. Et plus rien n'existera. Vous allez vous retrouver avec des romans de gare et pas grand-chose d'autre parce que aux États-Unis, où ils ont perdu leurs libraires et où ils ont perdu tout ce qui va avec, ils ont quand même la possibilité, grâce à l'anglais qui est parlé partout, d'avoir des tirages suffisants pour que certains livres publiés par des presses universitaires, donc certains livres de qualité, continuent à exister. En France, on n'aura pas, donc on n'aura plus rien. Voilà. Donc la librairie, c'est vital pour la vie intellectuelle française.
Monsieur,
qu'est-ce que vous pensez du positionnement de la FNAC qui est à la fois
je pense qu'il faut utiliser tous les moyens et que les libraires, il faut qu'ils soient de plus en plus sur Internet et qu'ils soient relayés d'une autre façon ou d'une autre. C'est contre Amazon qu'on en a.
Mais la FNAC a fait disparaître pas mal de libraires. Hein.
Non.
À Valence, par exemple, il y avait que le sol, ben, c'est fini. Hein. Notamment.
Excusez-moi, dans le débat par rapport à Valence. À Valence, c'est surtout une FNAC qui s'est montée donc, il y a maintenant 15 ans. À l'époque, les FNAC faisaient encore un peu de travail de libraire. Aujourd'hui, ils l'abandonnent au fur et à mesure, parce que d'abord la FNAC est à vendre, et qu'aujourd'hui, il faut faire une belle machine pour pouvoir la vendre la plus chère possible. Ça, c'est une première chose. Mais ils font leur travail. Il y a une très bonne FNAC, et des FNAC moins intéressantes. En ce qui concerne Valence, c'est surtout qu'en fait, il y a un groupe qui a racheté une librairie indépendante, qui s'appelle Crusol, et qui, par les problèmes de fonctionnement financier, a décidé d'arrêter. Parce que c'est le prochain de payer un loyer du personnel, il préférait s'en passer et les licencier ou les mettre ailleurs pour pouvoir continuer son objectif de France Loisirs à travers la France. Donc la FNAC, c'est pas, à mon avis, à cause de la FNAC que Crusol par exemple a fermé, mais surtout par rapport justement à l'arrivée de ces différents groupes qui rachètent au fur et à mesure et qui mangent les grosses librairies et qui, au fur et à mesure, si elles sont rentables, on les garde, c'est pas un problème, on comprend très bien, si elles sont pas rentables, on arrête dessus et vous verrez au fur et à mesure. Je rappelle qu'à Bellecour, il n'y a plus que des librairies de chaînes maintenant autour de cette belle place, que dans des lieux un peu comme ça, puisque la librairie Jean Marion appartient maintenant aussi à chapitre.com, etc. Donc on sait que là, ça ronge. J'ai deux, trois amis libraires qui connaissent très bien ces dialogues, par exemple à Brest, c'est l'ombre blanche donc, à Toulouse, c'est Mola, donc, par exemple, à Bordeaux. C'est Sorance, par exemple, aussi, donc sur Montpellier. À côté de ces belles librairies, les FNAC ont du mal. À côté de vraies librairies indépendantes qui font un gros boulot, évidemment que moi, petit bazar des mots, j'ai du mal à progresser, mais si vous êtes un vrai libraire dans une ville moyenne, une grosse ville, et c'est le cas à Mont-Blanche, à Toulouse, je vous assure que la FNAC ne prend que le reste. Le premier territoire du livre, il est dans la librairie indépendante de ces villes-là. Il n'est pas ailleurs. Et partout où vous verrez des FNAC progresser, évidemment sur la région parisienne ou à Paris, où le marché est différent, et d'ailleurs, les librairies indépendantes ont quitté ces arrondissements au fur et à mesure, vous verrez toujours des FNAC qui ont beaucoup de mal. Et vous verrez au fur et à mesure, dès que les librairies sautent, évidemment, la FNAC en prend dessus. Le second danger, c'est quand même Cultura, qui s'est installé aux alentours des villes, et qui, eux, ont un vrai danger de façon de travailler, mais c'est pas... C'est quelque chose de différent pour nous et une approche complètement différente par rapport au sujet de la librairie et de l'édition. Voilà. On va devoir conclure. Je vais te laisser la conclusion. Juste avant qu'on conclue, je tiens à vous remercier tous d'être venus. C'est la dernière rencontre autour du festival. On a essayé de vous présenter donc, différents aspects donc, de cette littérature de science-fiction. Je vous remercie et j'espère vraiment que l'an prochain, vous ferez découvrir une autre lecture, une autre littérature, et grâce à ces livres indépendants, faire vous découvrir comment le livre peut continuer à vivre et à espérer, comment nos jeunes et vous peuvent arriver à continuer à acheter des livres, à continuer et faire vivre aussi les livres éditions. Merci à vous tous.
La conclusion est très simple. Je vois. Oh non, allez-y.
Non, je suis bon.
La conclusion est simple. C'est-à-dire que vous avez mis ici un témoignage de personnes qui croient au livre et qui sont créateurs de littérature. Ce n'est pas uniquement l'auteur, c'est aussi celui qui l'apprécie, qui le fait, qui l'imprime correctement, qui est un métier et qui le diffuse et permet à l'auteur d'être lu et de partager ses idées avec beaucoup de lecteurs, on l'espère, avec beaucoup de monde. Je dirais que même mon temps libre, je ne le passe ni à la FNAC, ni à Amazon, je ne sais même pas où ils sont, mais je le passe dans une librairie qui a une histoire très ancienne, qui se trouve en centre-ville, qui s'appelle La Une, où ça me plaît, même si à la fin, quand je sors, je n'ai pas acheté un livre, mais c'est quand même un plaisir d'y être là. Voilà, merci à tous.
Je vais juste. Je remercie, mais juste pour malheureusement, la Une risque de disparaître prochainement.
Non.
Risque. Elle est déménagée, mais.
Elle a été revendue.
Voilà. mais c'est vrai que ça prouve un peu comment les choses se passent aujourd'hui, mais je pense que ça vraiment très très bien de ce qui se passe et on va arriver à faire un bon travail. Merci. Ouais,
je vous donne le temps. Merci. 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 Merci.